Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Passez une très belle journée, une très belle matinée. J'espère que vous êtes en vacances, si vous êtes sur la route. Évidemment, faites très attention à vous et profitez des vôtres durant ces fêtes de Noël et ces fêtes de fin d'année. Les grandes gueules du sport, c'est votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. On vous accompagne, on vous réveille tranquillement en ce dimanche matin. Au sommaire aujourd'hui, la Coupe de France doit-elle être la priorité de l'OM? C'est la une des GG dans quelques instants, l'OM qui dispute son 32e de finale sur la pelouse de Saint-Étienne. Le Stade toulousain dérange-t-il? Dérange-t-il le top 14? Ce sera le bras de fer à 10h. On vous attend, amis supporters toulousains, au 32-16. Et puis 11h, nous ouvrons le dossier sur la protection des coureurs cyclistes après une année marquée par des chutes. Où en est-on? Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on stagne? On posera évidemment la question à nos GG et à vous, le 32-16, vous l'avez bien compris, pour participer à tous nos débats. Les grandes gueules du sport ce matin, je voulais présenter un hommage à la cuisinière préférée des Français qui nous a quittés hier. Elle s'appelait Maïté, vous la connaissez tous, évidemment. Une grande gueule qui, comme Maïté, sa vie, c'est le gras. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Fais gaffe que je te fourre pas un peu à la dinde, toi. Je vais te déshabiller le lapin, je vais lui mettre le pyjama à l'envers.
Et oui, sa vie, c'est le gras. On connaît tous notre Christophe Cessieux et on connaissait, évidemment. Bien. Non, mais je dis pas que tu es gras, je dis que tu aimes manger gras, c'est différent.
Et sucré.
Écoutez notamment ce que faisait Maïté.
Il faut mettre moitié bouillon et moitié vert. Tandis que le civet de chevreuil, lui, on le fait qu'avec du vin pur. Oui. Mais la marinade de sanglier, non. Voilà la différence.
Voilà, la marinade de sanglier.
Ça me donne faim, ça, de bon matin, comme ça, une petite marinade de sanglier.
Mais je sais que ça te donne faim, mon cher Christophe. Tout va bien?
Bah, écoute, ça va. Bon, on va bientôt manger, là, c'est les fêtes, là, qui arrivent.
Exactement. Hein,
moi, je commence la veille, d'ailleurs. Dès demain, paf, on s'envoie un petit réveil.
Ok, je sais que ça te réjouit, tu as bien raison. Une grande gueule qui, comme Maïté, on préfère pas savoir ce qu'il cachait dans ses frigos. Jérôme Pinault, salut Jérôme.
Ah, c'est petit, ça. Chaque fois, ça revient. Tu vas bien?
Oui, ça va et toi? Il y avait quoi dans tes frigos?
Si tu savais, mon pauvre.
Il n'y avait pas de poche de sorde.
Évidemment que non.
À chaque fois, en diffamation, ça va, mon cher?
Ça va très bien, écoute.
Oui. T'es heureux?
Très heureux, les fêtes arrivent. D'ailleurs, si quelqu'un a pensé pour un petit pyjama pour toi, très chaud.
Oui, hein, oui, tu sens que je suis un petit peu malade.
Je sens que t'es un peu sur la fatigue, t'es à bout de course.
C'est pas impossible. Bah, je suis moins fatigué que le FC Nantes, en tout cas.
Ah, bah écoute, hier, ils se sont plutôt mal.
Bravo! C'est une équipe de N3, bravo! Ah bah,
évidemment,
monsieur.
D'autres ont fait bien pire, hein.
Bon, c'est vrai, on parlera d'Antoine Camboré, d'ailleurs.
Avec grand plaisir. Le GC Nice également s'est qualifié.
Ah, bravo, voilà. On applaudit tous les clubs de Liga. Et bravo à Montpellier qui en a pris 4 face au Puy-en-Velay. Une grande gueule qui, comme Maïté, il tape sur tout ce qui bouge. Marc Madiot, salut Marc.
Bonjour, non, je tape sur personne.
Si tu assommes parfois tes coureurs, est-ce que vous vous souvenez de Maïté qui a sommé ses anguilles?
Ah oui, évidemment.
Oui, regardez, écoutez.
Viens là, ma bus, viens là, ma biche, viens là.
Ah oui, vous l'assommez un petit coup là pour l'endormir.
Oh, viens là, ma chérie. Là, c'est rien.
Ça y est.
Hop.
Vous vous souvenez, l'anguille qui voulait pas du tout être assommée. Allez, viens là.
Viens là, ma biche, ma biche.
Tu fais ça, tu réservais ce
traitement?
Ce traitement.
Non,
tu fais pas ça, Marc,
non.
Avec tes coureurs.
Non plus.
Viens là, ma biche. Non, viens là, boum. Non. Bon, d'accord, non. Très bien. Et puis une grande gueule qui, comme Maïté, on se demande à chaque fois si c'est sa vraie voix, Marion Bartoli. Salut, Marion.
N'importe quoi.
Elles sont venues un
peu. Tu savais plus quoi trouver, donc du coup, t'as inventé quelque chose. Non, mais n'importe
ça
quoi.
Ça va, cher Marion.
Bonjour, les amis. Oui, bon, ça va.
Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu dans cette émission. À un moment donné,
mais
je me suis demandé.
Je suis un petit peu occupée, écoute, ces derniers temps.
Je me suis demandé si tu nous faisais pas la tête, parce que je veux vous le dire, chers auditeurs, et puis pour vous, les GG, même si vous le savez certainement, Marion a été décorée, et on la félicite évidemment, décorée de la Légion d'honneur. C'était début décembre, une distinction remise par le président de la République en personne, Emmanuel Macron. Donc bravo, ma chère Marion, une consécration après une carrière formidable.
On est deux,
hein,
et ça fait deux autour de la table. Marc, tu l'as aussi,
la Légion d'honneur.
Oui.
Tu l'as reçu il y a combien d'années?
Il y a quelques années.
Après,
ça fait pas si longtemps que ça.
Paris-Roubaix, c'est ça?
Non, j'avais été nommé par Chirac. Et je l'ai reçu de Monsieur Sarkozy.
Très bien. Donc Nicolas Sarkozy pour Marc Madiot. Il y a eu Emmanuel Macron pour Marion Bartoli. Bravo, cher Marion, c'était un bon moment.
Magnifique, écoute. Ben, je crois que tu étais présent.
Ben oui, j'ai eu l'honneur d'être invité au Palais de l'Elysée.
C'est la paluche à menu.
Non, mais je peux vous dire que c'est vraiment sans rejette. Et merci pour cette expérience, Marion, parce que c'est quelque chose avec qu'on ne fait plaisir. Jamais dans sa vie. Et c'est vraiment un moment remarquable. Moi qui adore l'histoire, par exemple, peu importe le président, qu'on l'aime pas, ça, on s'en moque. Mais d'être sur le perron de l'Elysée.
Aller au palais déjà, c'est beau.
Non, mais de fouler cet endroit où tous les plus grands sont passés, c'est vraiment un moment incroyable. Donc merci, Marion, pour ce moment. Et bravo, en tout cas, pour cette
tu t'es arrêté
d'honneur.
Sur les marches pour la photo, non ? T'as pas fait ça ?
Ah bah
les photographes,
oui, bien sûr, c'est arrêté.
Oui, les photographes ont beaucoup demandé, mais bon, vous savez, vous connaissez... Vous connaissez mon côté, ma pudeur, voilà, et mon côté timide. Bref, allez, passons. On va débuter cette émission quand même, parce qu'il est déjà 11h. On va débuter avec cette citation de Boris Vian, qui a dit un jour, à quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer par-dessus.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Le principe derrière la stratégie infaillible, c'est qu'à partir du moment où tu as défini une bonne stratégie infaillible, la seule condition pour que tu réussisses à atteindre ton objectif, c'est la régularité.
C'est terminé, une nouvelle bronca au Vélodrome.
Messieurs, voici notre objectif.
Attention, la curseur dans la surface. Le Vélodrome qui réclame un pénalty. Il n'y aura rien.
L'ennemi se tient ici, supérieur à nous, rusé, attentif et bien organisé.
Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez.
Oh, il est beau. Et ça fait but. Oh là 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 là, le scénario catastrophe.
On est encore en construction, contrairement à des équipes comme Monaco, Lille ou Lens. Qui ont la stabilité depuis des années. Nous, on a tout changé.
Tant que tu te tiens à ta stratégie, la question, c'est pas de savoir si tu vas réussir, mais quand tu vas réussir. C'est mathématique, c'est juste une question de temps.
C'est Marcel Bébé, 1-3 au G-Sport. Je passe la douane, les rapports. Ta mère sur la canne de pierre.
Je pensais pas être réveillé par cette chanson de si bon matin. 35 ans, ça fait 35 ans que l'OM n'a pas gagné la Coupe de France. 12 ans que les Marseillais attendent un trophée. Le dernier, c'était en 2012, la Coupe de la Ligue. L'OM se rend cet après-midi, vous le savez, à Saint-Etienne pour débuter une nouvelle aventure Coupe de France. Deuxième club de l'histoire à avoir le plus remporté ce trophée. 10 victoires au total, 19 finales pour l'Olympique de Marseille. Et depuis mercredi soir, vous le savez, le fantasme du titre en Ligue 1 s'est éloigné un peu plus. Le PSG compte désormais 10 points d'avance sur l'OM. Vous l'aurez compris, la seule chance pour les Marseillais de soulever un trophée cette saison s'appelle la Coupe de France. Alors la musique qui fout les jetons est cette question. La Coupe de France doit-elle être la priorité de l'OM ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Non.
Jérôme Pinault ?
Oui.
Mario Bartoli ?
Non.
Marc Madiot ?
Non.
J'ai trois dons, j'ai un oui. Oula. Avant de vous écouter, je sais que ça ne te dérange pas, Jérôme, supporter de l'OM, d'être tout seul dans cette histoire. Je propose d'écouter Roberto De Zerbi sur cet objectif. Coupe de France, c'était en conférence de presse.
On y tient beaucoup. On sait que cette Coupe de France nous échappe depuis 1989. C'est quelque chose de très important pour nos supporters, mais aussi pour nous. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de différence entre la Coupe et le championnat. Bien sûr, le championnat te permet d'aller en Ligue des Champions, ce qui est très prestigieux, mais cette Coupe manque et on y tient énormément.
On y tient énormément. Bah, tu commences, Jérôme Pinault, ce débat. Pourquoi oui? Pourquoi cette Coupe de France doit être la priorité de l'OM?
Parce qu'avec l'effectif, parce qu'avec le budget, parce qu'avec le projet marseillais, avec cette année sans Coupe d'Europe pour Marseille, évidemment que cet effectif-là est capable de jouer sur deux tableaux et que faire de cette Coupe de France un objectif, bah, finalement, on a compris. Le titre en Ligue 1, il est échappé, même si, du
un
côté
objectif,
marseillais.
Ok. On te demande si ça doit être la priorité. Et
donc, laisse-moi finir. La priorité.
Le truc qui doit viser en premier.
Donc, quand tu fais d'un objectif, une priorité d'une compétition, une priorité, tu alignes à chaque match ta meilleure équipe et c'est ce que va faire De Zerbi ce soir, il l'a dit, et la Coupe de France va devenir une priorité pour l'OM parce que dans le championnat tout devrait glisser normalement et l'OM devra se retrouver à la place qu'il doit être, c'est-à-dire deuxième ou troisième. Maintenant, cette Coupe de France doit en être une. Cette année, sans Coupe de France, pour moi, un club comme l'OM depuis tellement longtemps n'a pas ramener de trophées et je dirais même de plaisir ultime à son public et à tous ses supporters dont je fais partie, que ce titre-là, on a envie de l'avoir. Et oui, ça doit être une priorité pour offrir quelque chose dès cette année avec l'arrivée de Zerbi. Les choses bougent beaucoup au club. On sent qu'il se passe quelque chose et ce serait formidable de faire un trophée. Il y en a plus que deux en France. Il y en a un qui est perdu et qui est la priorité du Paris Saint-Germain. On le sait. Le principal adversaire dans cette Coupe de France-là, ça sera encore le Paris Saint-Germain, mais Il y aura beaucoup de compétitions à jouer. Ils vont devoir lever le pied sur certains matchs, je pense. Faire tourner, il y a des pièges dans cette compétition.
Donc il faut y aller.
Donc pour moi, la priorité pour l'OM, ça doit être de gagner cette Coupe de France.
Alors, tu dis la priorité, mais il y a quelques instants, tu disais une priorité. La priorité, c'est-à-dire que ça doit être la compétition que tu vises en premier. Et moi, je ne pense pas.
Bah, à mi-chemin, avec le championnat, quand t'es sûr de plus gagner.
Voilà, c'est peut-être, oui, peut-être pas.
On a fait l'émission aujourd'hui, on l'a pas fait il y a 6 mois.
Si on t'avait dit, si t'avais écrit, la Coupe de France doit-elle être l'une des priorités de l'OM, eh ben là, on était bien.
Si, on m'avait demandé, doit-elle être la priorité de l'OM en juin dernier, j'aurais dit non. Aujourd'hui, oui.
La priorité.
Et les gars, attendez peut-être ce soir quand même.
Bah exactement, de toute manière, tu peux pas faire
un match après match. Si tu te fais sortir d'entrée, c'est plus une priorité.
Ah bah oui, je te confirme.
C'est pour ça, tu ne peux pas faire d'une Coupe de France, d'une coupe en général, une priorité, parce que c'est trop aléatoire. Là, tu joues quand même à Saint-Etienne tout à l'heure.
Ça va.
Bon, ça va. Ah, mais ça c'est un peu la suffisance du supporter du club qui a l'impression. Non, tu joues une équipe de L1. Il y a des équipes de L1.
Ok, c'est 6 matchs à gagner. C'est 6 matchs à gagner.
National 3. Oui, mais c'est 6 matchs à gagner, mais c'est pas la priorité. L'OM, sa priorité, c'est d'être deuxième, d'être qualifié directement pour la Ligue des Champions. Ça fait trop longtemps qu'ils sont pas en Ligue des Champions. Ah ouais. Ça fait trop longtemps qu'ils ramassent pas le pactole chaque année. Il faut des sous pour gonfler leur effectif, pour un jour espérer rivaliser avec le PSG, pour espérer un jour titiller le PSG quant au titre de champion de France. Il y a que ça qui compte. La Coupe de France, c'est bien, ça fait beau dans le palmarès. Mais aujourd'hui, tu peux plus en faire une priorité.
Quand t'es supporter de l'Olympique de Marseille, tu peux quand même avoir l'objectif. D'être dans les deux premiers, la priorité de gagner la Coupe de France. Tu peux bien faire ça une année où tu joues pas la Coupe d'Europe.
Ok, bah justement, une autre supportrice de l'OM, un petit peu comme toi, Jérôme,
j'étais très étonné d'entendre Marion dire. Toi.
Elle pense que le championnat, j'imagine, Marion, c'est ce que tu vas nous dire. Le championnat, c'est le championnat. La Coupe de France, à la rigueur, c'est une petite cerise sur le gâteau, mais pas plus.
Exactement, et je suis complètement d'accord avec Christophe. De toute façon, au vu de l'écosystème actuel du foot et surtout du nouveau format de la Ligue des Champions, la priorité absolue de l'OM, c'est de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Bien évidemment, sur le plan financier, c'est une manne financière dont l'OM ne peut pas se passer. Je ne crois pas qu'actuellement, ils aient l'effectif pour réellement aller jouer sur les deux tableaux, sachant qu'en plus, particulièrement cette année, en termes de classement de Ligue 1, c'est extrêmement accroché. Je te rappelle, Jérôme, qu'il y a un nombre de points d'écart entre le deuxième et le septième qui est extrêmement réduit, c'est-à-dire que oui, actuellement l'OM est deuxième, mais t'es pas à l'abri si tu fais deux mauvais matchs de te retrouver extrêmement rapidement sixième ou septième, et que pour moi aujourd'hui, avec les problèmes défensifs qu'il y a à l'OM, et on l'a vu encore sur les matchs, sur le dernier match contre Lille, tu ne peux pas te permettre actuellement de te dire je vais faire une priorité absolue de la Coupe de France et entre guillemets le championnat je le passe derrière ça. Je ne peux pas y croire.
Que ça fasse partie de front les deux, c'est pas pareil.
Que ça fasse éventuellement partie d'une priorité qui ne fasse pas qui ne faille pas négliger la Coupe de France. Oui, bien sûr que c'est une opportunité d'aller la gagner.
Donc on doit
bien sûr
que c'est l'opportunité
de pouvoir faire. Tu dois le faire, mais à un moment donné, si tu continues à avancer en Coupe de France et que tu as 2-3 jours plus tard un match extrêmement important au championnat, tu devras choisir, je suis désolée, championnat, et tu peux pas mettre en priorité la Coupe de France, ce n'est pas possible. Il y a trop d'argent en jeu. Avec le nouveau format, la qualif assure en Ligue des Champions, c'est 19 millions d'euros. C'est 2 millions d'euros la victoire, et il y a bien sûr des bonus si tu te qualifies en 16e ou en 8e directement. Cette manne financière, l'OM ne peut pas s'en passer. Moi, et je suis désolée,
avec
Benatia et De Zerbi font que ça depuis le début de la saison, de répéter que la qualif en Ligue des Champions est l'essentiel.
J'y sais, aujourd'hui, la priorité, c'est gagner de l'argent pour être compétitif et pour accrocher les meilleurs. Et qu'est-ce que
pour faire la compète et peu importe de la jouer après.
Aujourd'hui, les supporters et les dirigeants de l'OM, c'est d'arriver un jour à taper le Paris Saint-Germain, à lui prendre le titre de champion de France. Il y a que ça, c'est ça qui les obsède. La Coupe de France, évidemment, s'ils les battent en finale de Coupe de France, ce serait exceptionnel. Mais la priorité, c'est le championnat, et donc pour espérer battre un jour le PSG, il faut avoir des sous.
Il faut se renforcer.
Vous me parlez d'argent, je vais aller voir un capitaine d'industrie. Alors, c'est Marc Madiot, le patron de la Groupama FDJ. Est-ce qu'on arrive comme ça à avoir plusieurs objectifs dans une saison ?
Son objectif, c'est la Coupe de France en vélo. Demande-lui si c'est son objectif, la Coupe de France.
Est-ce que dans une saison, on peut se dire
la Coupe de France ?
Moi, c'est important.
Je fixe mes priorités.
T'es pas capable de gagner plus haut.
Laissez-moi parler. Arrêtez votre numéro. Marc n'a pas encore parlé. Ça fait 20 minutes qu'on a fait cette émission. Exactement. Bravo Marc Satonor. Tu auras tout le temps la main dans cette émission.
Notre sage.
De sagesse.
Donc, est-ce que tu arrives à fixer plusieurs objectifs dans une saison, ou alors tu es obligé de prioriser à un moment donné ?
La Coupe de France en football, ça devient progressivement un objectif à partir des quarts de finale. Imaginons l'OM passe, ou ne passe pas. On peut très bien se retrouver ce soir éliminé de la Coupe de France et votre débat, vous pouvez le refaire toutes les 5 minutes.
Ça, c'est sûr.
Il sera bon à jeter à la poubelle. Donc, ça se passe tour après tour. Je pense que les clubs de Ligue 1 font les premiers tours. Regarde comment ça se passe. Rentrent ou pas dans la compétition. S'ils ne rentrent pas, ils sont éjectés. Donc, le problème est résolu. Mais une équipe comme Marseille avec la Coupe de France, ça va commencer à les titiller vraiment à partir des quarts de finale.
T'es en train de me dire que là, s'ils sortent, bon, bah voilà, on a raté cette année, c'est pas très grave.
Ouais, non, mais regarde l'exemple.
Elle est là, la différence.
Je pense que tous les clubs de Ligue 1 s'intéressent à la Coupe de France à partir des quarts de finale. Ils regardent les premiers tours, comment ça se goupille. Ça passe pas, c'est pas un drame. On se réfugie sur le championnat. Si on est en quart de finale, on regarde qui reste dans la compétition, on regarde si ça peut le jouer ou pas, et à partir de ce moment-là, ça devient un objectif. Là, oui, pour des clubs de milieu de tableau, quand on est en quart de finale, on regarde si on peut aller jouer jusqu'au sommet, jusqu'au Stade de France, et pour l'OM, ça va être la même chose.
Moi, j'ai l'impression que vous voulez y aller étape par étape, ben mais oui. Je sens que si l'OM, oui, jamais, et s'il y a une mésaventure cet après-midi, je pense que
dans 8 jours, tu feras une
émission.
Dans 8 jours, tu fais une émission, que reste-t-il à l'OM.
Ouais, et on n'est pas à l'abri, en se faisant éliminer de la Coupe de France, de se faire un mauvais championnat non plus. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre et tu ne peux pas dissocier les deux. C'est-à-dire que si tu restes en course dans le championnat, tu peux aussi avoir un beau parcours en Coupe. Si jamais, par bonheur, tu venais à gagner un trophée alors que le championnat, tu fais 3 et pas 2, tu vas réussir à
qualifier en Ligue des Champions.
Oui, mais c'est pas l'objectif du club. Hein. C'est la deuxième place.
Oui, mais trois, t'es qualifié. Mais trois, t'es quand même qualifié. Oui, mais regarde l'année où si tu ne gagnes rien, une année de plus,
et si le PSG gagne les deux, tu vas encore prendre les foudres et tu vas encore te dire, on n'a pas fait la saison qu'on espérait.
Vas-y, Marion.
Jérôme, regarde l'année où l'OM bat le PSG en Coupe de France et perd sur Annecy derrière. Bon, ça m'a valu une punchline. On le passe chaque semaine dans Super Moscato Show. Mais la Coupe de France est quand même une compétition extrêmement particulière. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, et l'OM ne peut pas dire aujourd'hui, que quand il démarre la saison, il met en priorité numéro 1 d'aller chercher le titre.
Ah non, mais j'ai pas dit au départ de la saison. Je te dis que là, avec le championnat qui est plié, et la hiérarchie qui est en train de s'installer,
pour la gagne. Et pour la gagne, l'OM ne visait pas la gagne au début du championnat.
Et s'ils sont bien, ils pensaient à un moment.
C'est deuxième. Oui, mais il y a quand même que 6 points d'écart entre le deuxième qui est l'OM, ex aequo avec Monaco, et Lens qui est septième. Il y a que 6 points d'écart. Tu fais 2 mauvais matchs et tu te retrouves 6e ou 7e. Okay, il va falloir les regagner les places.
Il
y a quand même quelque chose qui, moi, m'étonne beaucoup, c'est que Marc n'ait pas dit ça. Parce qu'il y a quand même un truc important, c'est faire tourner le compteur, comme dit Marc. Gagner des titres. C'est important de gagner des titres.
Mais il faut gagner quelque chose.
En foot, c'est plus gagner des titres, c'est prendre du pognon là où il y en a à en prendre.
Donc moi, je t'ai parlé de mon côté supporter.
T'es un romantique,
Pourquoi
Marc te parle du match de ce soir? Son cœur est stéphanois parce que.
Non, pas du tout.
Mais son cœur est parisien maintenant.
T'as une grosse affiche de Ligue des Champions.
Lavallois est parisien.
Mario, vas-y.
T'as une grosse affiche de Ligue des Champions, comme quand le Real s'est déplacé à Lille, etc. T'as quand même 5 millions d'euros de recettes de billetterie sur un match.
Mais vous me parlez que d'argent. Voilà, moi, je vous parle de Coupe de France de magie, vous me parlez que d'argent.
Plus c'est sponsor. Mais oui, mais bon.
Le foot, c'est
mais toi, tu vis dans le royaume des bisounours, c'est ce que je te dis.
Mais bien sûr. Mais moi aussi, j'y suis bien.
Mais moi, les copains marseillais, je vous souhaite un titre et vous me dites non, on n'en veut pas de ton titre, on veut la deuxième place, on veut la thune.
Ah oui.
Ok, on continue la discussion, évidemment. Vous pouvez venir participer avec nous. Est-ce que pour vous, supporters marseillais, la Coupe de France, c'est la priorité de la saison, oui ou non? Le 32-16, évidemment, on vous attend nombreux. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h30 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Mario Bartoli, Christophe Cessieux, Marc Madiot, Jérôme Pinault. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Un zapping, on s'en fout pas, absolument exceptionnel. Enfin, exceptionnel si ça vous intéresse. Parce que si tout le monde s'en fout à chaque fois que je dis quelque chose, évidemment, ça va aller très vite. Mais j'ai la mise au point d'Antoine Griezmann.
C'est très rare quand même.
Oui, c'est très rare. J'ai eu Zic qui bat Fury. Comment ça, on s'en fout, Christophe? Non, ça m'étonnerait.
Il est bref, il est bougon.
Beaucoup d'informations à vous donner, on en reparle. Mais restons un instant sur notre débat, l'OM qui affronte à 14h45 Saint-Etienne en 32e de finale de la Coupe de France. C'est l'une des affiches de la journée avec le soir Lens Paris Saint-Germain. Est-ce que la priorité de l'OM cette saison, ça doit être cette Coupe de France? J'ai Jérôme qui me dit oui, évidemment, il faut un trophée. J'ai, on va dire, les trésoriers du club qui me disent non, il nous faut un petit peu d'argent. Écoutez ce que disait Roberto De Zerbi la semaine dernière quand on lui dit bon, bah voilà, le championnat maintenant, vous pouvez passer les fêtes tranquilles. Non, il y a Saint-Etienne encore.
C'est le moment où nous devons spingere fort.
C'est maintenant qu'il faut pousser encore plus fort que ce qu'on fait depuis le début de la saison. En cette fin d'année, il y a évidemment l'objectif de gagner les deux prochains matchs de championnat et aussi de se qualifier en Coupe de France. Cette semaine, j'ai dit qu'après le match contre Saint-Etienne le 22 décembre, tout le monde devra revenir à la commanderie. Mais jusqu'à cette date, je ne veux pas voir de valise faite ni de sac à dos, parce que sinon, je vais les cramer dans les vestiaires.
Et voilà les propos de Roberto De Zerbi. Ça te parle, ça, Jérôme?
Ouais.
C'est de la com ou pas?
Non, c'est pas de la com. Il est, ça sort du cœur.
Il est dans son rôle.
Et Brucho, c'est plus que cramé. Hein.
Oui, mais on pouvait pas tout traduire non plus.
On peut pas tout dire.
Il a le discours qu'il faut. Il est manager, ce type-là. Il peut pas dire à ses gars, et encore moins, lui, c'est un compétiteur. C'est-à-dire que lui, s'il nous dit, face caméra, moi, l'objectif, la Coupe de France, c'est beaucoup moins de millions que de faire troisième et de se qualifier. Et il va se faire arracher la tête par le peuple marseillais. Donc il n'a pas le droit de parler comme ça, lui. Et il doit emmener ses joueurs. Elle est importante, ces compétitions.
Exactement. Et je trouve que c'est assez sous-estimé par le camp d'en face, Christophe, Marc et Marion, parce que Marseille a
gagné des titres à l'OM. Non, mais c'est
au-delà
important.
De gagner des titres, elle a une...
c'est réaliste.
Mais à Marseille, il y a une vraie histoire avec cette Coupe de France. Je vous ai dit, d'accord. Il y a 19 finales, il y a 10 titres. L'équipe qui a le plus de titres en Coupe de France, c'est le Paris Saint-Germain avec 15 titres, je crois. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Il n'y a eu que des finales perdu dans les années 2000. Enfin, je veux dire, pour l'OM, c'est hyper important.
L'un des moments les plus marquants de l'histoire de l'Olympique de Marseille, vous étiez pané, monsieur Drouet, c'est 1972, quand l'OM réalise le doublé. À l'époque, le président de l'OM, c'était Marcel Leclerc. Il y avait Scoblar, il y avait Magnusson. C'était une équipe fabuleuse. Et le président de l'OM s'était jeté dans le port au moment où Marseille avait obtenu la Coupe de France. À l'époque, cette Coupe de France était un vrai, vrai grand trophée. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins qu'avant. Le championnat a vraiment pris le pas sur la Coupe de France. À l'époque, gagner les deux, c'était très rare. Et l'OM l'avait fait cette année-là et ça avait été un moment incroyable dans l'histoire de Marseille.
Mais souvenez-vous, en 2012, quand l'OM gagne la Coupe de la Ligue, la folie aussi à Marseille, alors que c'était une coupe décriée et tout le monde se moquait un peu des supporters de l'OM en disant « Oh, ça va, calmez-vous, c'est juste la Coupe de la Ligue ».
C'est une telle frustration à Marseille de voir le Paris Saint-Germain, l'ennemi juré numéro un, enfiler les perles et les titres, que la moindre miette que Marseille puisse obtenir, ils fêtent ça comme des dingues, et c'est normal. Et c'est pour ça aussi que je dis que il faut rendre aussi à ce public-là des choses. Et oui, une deuxième place, une troisième place en Ligue des Champions, et l'an prochain, une Champions League au Vélodrome, c'est formidable, c'est l'objectif du club. Mais un titre accessible, et encore une fois, il est accessible au départ de la compétition à tous les clubs. Parce que l'essentiel et l'essence même de la Coupe de France, c'est qu'il y a d'énormes surprises. On l'a encore vu hier. Mais d'avoir ça en tête et de dire, on va tout faire pour remporter cette compétition, et on doit tout faire. Donc, on mobilise chaque joueur. Et comme le dit De Zerbi, on n'est pas en vacances. On va laisser les sacs à dos et le trolley à la maison. On va jouer, on va gagner à Saint-Etienne. Et après, on pensera à la suite. C'est, pour moi, juste normal.
Souvenez-vous, en 2023, l'OM sort le Paris Saint-Germain, ce qui est déjà une performance en huitième de finale de la Coupe de France.
Marion vient de le dire. Mais t'aimes ça nous rappeler cette défaite.
Mais c'est juste pour vous dire que Annecy, ça avait été considéré comme une catastrophe pour l'Olympique de Marseille.
Surtout quand tu sors le PSG, c'est la raison pour laquelle
tu peux pas faire de la Coupe un objectif. Regarde, il avait un boulevard devant eux en ayant sorti le PSG, et puis il tombe contre Annecy. Donc,
mais est-ce que c'est pas dû à un manque de concentration parce que justement là ce soir il va aligner toute l'équipe numéro 1.
Ok, Vincent nous appelle au 32-16, supporter de l'OM, il veut réagir à notre débat. Bonjour Vincent.
Bonjour monsieur le Père Noël Drouet et ses lutins.
Je ne savais pas que les lutins étaient des légions d'honneur en plus, c'est incroyable. Vincent, merci d'être avec nous. Vincent, pour toi, est-ce que la Coupe de France doit être la priorité?
Mais oui, je suis entièrement d'accord avec Jérôme.
Voilà.
Mais les gars, on joue pour quoi? On joue pour quoi? On joue pour gagner?
Pour les millions.
Attendez, Mais pour les millions, mais hey, les gars, attendez, on est censé rivaliser avec Paris, on s'en prend trois à la maison. Et les gars, je fais partie d'un club de basket et j'ai toujours le même discours avec les joueurs. Les joueurs, ils disent la coupe régionale, ouais, si on se fait sortir, c'est pas grave. Mais les gars, vous prenez des licences pour quoi ? Pour jouer ou pour gagner ? Ou autrement, vous restez à la maison ou jouez à FIFA avec maman ? Mais les gars, mais on joue pour gagner. Moi, pour moi, c'est un objectif à la Coupe de France. J'ai 33 ans, j'ai gagné avec Marseille une Coupe de la Ligue. Les gars, c'est fou.
Alors Vincent, tu préfères finir 5e au championnat et gagner la Coupe de France ou finir 2e au championnat et perdre en demi la Coupe de France ?
Bah, sincèrement, je préfère pas être 5e et gagner la Coupe de France. Si c'est pour aller en Ligue des Champions et avec les grosses écuries et s'en prendre 5 au Vélodrome, franchement, je préfère terminer 5e.
Bah, regarde cette année, hein.
Ok, regarde, tu préfères jouer la Ligue Europa, parcours, limite, jouer la oui, Ligue ouais, Europa ça, et gagner un titre, ok, c'est ce que tu veux nous dire, ok.
Oui, parce tout cas. Que sincèrement, tous les ans, c'est le même discours, Ligue des Champions, Ligue des Champions, Ligue des Champions, et au final, on a quoi ? Des cacahuètes. Ah ben, c'est bien pour le Ricard. Donc, non, pour moi, je veux un titre.
Bah, regarde le parcours de Brest cette année en Ligue des Champions. Hein.
Ah oui, ben oui, parce qu'eux, ils jouent...
Le format est différent, ça n'a rien à voir hein, par rapport
au. Oui, mais il y a une mauvaise expérience de ces dernières années de l'OM en Ligue des Champions. Je crois que ça a un peu refroidi les supporters marseillais. En tout cas, c'est ce que nous dit Vincent.
Par contre, le format a complètement changé.
Je suis d'accord avec Marc, par contre, sur le point de vue où c'est vrai que la Coupe de France peut être intéressante, arriver en quart. Ça, par contre. Ma foi, il a pas trop tort.
Mais ma foi, il faut gagner 3 matchs avant quand même avant d'y aller en quart. Il faut gagner en 3e, en 16e,
ouais,
en 8e.
Ouais, mais en principe, les premiers tours.
Ce soir, c'est pas le cas, tu vois.
Ça peut être assez accessible. Ouais. Ce soir, c'est pas le cas. C'est contre Saint-Etienne. C'est quand même un club qui a gagné à plusieurs reprises la Coupe de France, qui a une histoire avec cette Coupe.
Saint-Etienne. Ouais, enfin, ce soir, c'est pas l'histoire qui joue.
Saint-Etienne. Attention.
Ok.
Attention.
Marc prévient, hein, c'est le capitaine d'industrie qui dit attention les Marseillais, ne pas s'enflammer, c'est un 32e de finale et c'est face à Marseille. Et ce sera à suivre sur RMC à partir de 14h45.
Et alors Marion Bartoli qui est née à côté de Saint-Etienne, oui. Elle est pour qui cet après-midi ? Saint-Etienne ou Marseille, Marion ?
Devine. Non mais devine. Je crois que tu as la réponse dans la question.
Non, mais tu as repoussé toutes tes racines de la Loire et de la Haute-Loire, Marion ?
Oui. Loin.
Ah oui, elle
l'assume en plus.
Avec complètement. Alors là, j'aurais du mal à m'en cacher, écoute.
Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous au 32-16. Vous l'avez entendu, il y a le Père Noël dans cette émission. Car oui, c'est le grand jeu de Noël sur RMC. C'est jusqu'au 24 décembre. Avec une pluie de cadeaux à remporter, des chèques 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, des iPhone 16, des lunettes virtuelles, des montres connectées. Bref, beaucoup de choses à vous offrir, de superbes cadeaux. D'ailleurs, il y aura un grand gagnant dans cette émission. Vous composez tout de suite Noël au 732-16. Vous envoyez un petit message Noël au 732-16 et vous pouvez être tiré au sort. Et ensuite, il faudra choisir une DGG. Et derrière une DGG, il y aura un magnifique cadeau pour vous à mettre sous le sapin. 9h38, on se retrouve dans quelques instants pour le zapping DGG. On s'en fout, on s'en fout pas, et notamment la mise au point d'Antoine Griezmann. Je sais que ça va vous intéresser. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, ça m'intéresse. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h42, de retour dans les grandes gueules du sport avec Marion Bartoli ce matin, Christophe Cessieux, Marc Madiot, Jérôme Pinault à partir de 10h. Ce débat que la France attend, enfin la France de Toulouse, le stade toulousain, dérange-t-il en top 14 ? On se posera la question et on vous donnera évidemment les informations, le pourquoi du comment, pourquoi nous posons cette question. C'est donc à partir de 10h, on vous attend, supporters toulousains, au 32-16. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC. Le zapping des grandes gueules du sport.
Ah, des informations sympas à vous donner aujourd'hui. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, vous connaissez le principe, on zappe l'information. Et si vous me dites je m'en fous, vous n'avez pas le droit à la parole. C'est le jeu, évidemment. Première information à vous donner, c'est Usyk qui bat encore Fury cette nuit. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
Marc Madiot.
On ne s'en fout pas.
Ok. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Jérôme Pinault.
Je m'en fous pas.
Ok, tout le monde veut parler, hein, les cochons. 7 mois après sa première victoire, Alexander Usyk a de nouveau battu Tyson Fury. C'était donc cette nuit à Riyad en Arabie Saoudite. Il s'est imposé au point par décision unanime. Les trois juges ont rendu le même pointage à l'issue des 12 rondes, 116 à 112. L'Ukrainien conserve ainsi ses ceintures WBA, WBC, WBO des lourds. Usyk demeure toujours invaincu avec une 23e victoire. Il reste le patron chez les lourds pour le Britannique. En revanche, Tyson Tyson Fury. C'est une deuxième défaite en carrière, celle qui marque peut-être la fin justement de cette carrière. On écoute Fury après la rencontre. C'est comme ça, je ne vais pas pleurer sur mon sort, c'est fait maintenant. Mais je me sens un peu lésé, beaucoup en fait. J'ai le sentiment d'avoir gagné les deux combats. Je sais que je devais le mettre KO, mais c'est de la boxe et ça arrive. Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que j'ai gagné ce combat. Je n'ai rien ressenti de son côté, juste l'esprit de Noël. Les juges lui ont donné un cadeau de Noël en avance.
Ok, vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase. J'ai l'impression, je vous vois.
Non, mais quand tu prends des coups dans la tête pendant 12 rounds, peut-être que t'es pas assez lucide pour savoir c'est ce qui s'est passé. Ça doit pas être évident de faire le point. Mais non, il a été battu, Fury. Tous les juges sont d'accord. 116, 112, ils ont tous attribué la victoire à Usyk. Moi, j'ai été un peu déçu par ce combat. Je m'attendais à un grand championnat du monde de poids lourd. Franchement, la revanche était là. Fury avait dit qu'il s'était entraîné, mais il a vieilli, malheureusement, Tyson. C'est plus le même qu'avant. Il est plus lent, il est plus lourd, et il est plus tranchant comme il l'était. Il a toujours ses belles qualités de boxeur, mais ça va moins vite qu'avant. Et Usyk, il est d'une rapidité incroyable. Il fait 10 cm de moins, mais il touche à chaque fois.
Et 20-30 kilos de moins.
Et 20-30 kilos de moins. Et je pense qu'il est logique que Usyk ait gagné ce championnat du monde. Et Tyson, il va pouvoir, tu sais, à un moment donné, il avait dit je prends ma retraite, je vais aller boire des caipirinhas et tout ça dans les îles. Il est peut-être temps d'y aller, mon petit gars. Enfin, bon, petit gars. Monsieur
Tyson Fury, tu peux le dire.
Si tu crois,
il se rappellera. C'est ceux qui m'ont appelé mon petit gars, c'est ça.
Mon grand bonhomme.
Ça t'a énervé, Jérôme Pinault, aussi, cette phrase de Tyson Fury.
En fait, je suis allé voir ce matin tôt le combat et les résumés du combat parce que j'ai vu cette déclaration. Je trouve toujours très délicat de déclarer ce genre de choses alors que on sait, il y a des jus, il y a la boxe et là, c'est les trois, le même score. Et quand tu regardes le résumé,
exactement.
Comment tu peux dire ça? Et ça m'a fait mal au cœur parce que Fury reste un grand champion. Je ne me permettrai jamais de l'appeler mon petit gars. Je suis un peu moins musculeux que Christophe. Ça m'embête parce que c'est un grand champion en fin de parcours. Il faut savoir dire stop ou alors accepter la défaite. Quand tu fais un combat, il y a un juge, ça tombe. Tu sors grandi quand tu dis ok, j'ai perdu contre plus fort, basta. Là, il fait un peu passer ça, le gif. Là, c'est un Ukrainien, tu vois, c'est un peu le truc. Il laisse un peu un truc puant et c'est pas terrible.
D'ailleurs, Zelensky, le président ukrainien, a réagi à cette victoire en félicitant évidemment. Usyk, son compatriote. Je rappelle qu'il s'était isolé pendant 3 mois, loin de sa femme, de sa famille, de ses enfants, pour se préparer Tyson Fury. Donc, il avait tout mis, beaucoup d'espoir sur ce combat.
Il s'est préparé comme un athlète de haut niveau.
Et le prochain combat, ce sera peut-être face à Anthony Joshua, mais évidemment les deux Britanniques, mais évidemment là il n'y aura rien en jeu. Oui Marc, tu voulais réagir.
Pour moi Usyk est un boxeur sous-estimé.
Totalement.
Depuis le début de sa carrière, il franchit les étapes les unes après les autres. Il est champion du monde et incontesté et incontestable. Mais on n'en fait pas une méga star. Et c'est quand même un grand boxeur. Et moi hier j'étais sûr qu'il allait gagner.
Alors le truc c'est que on sait que les plus grands champions des poids lourds ont tous eu des personnalités incroyables.
Il parle beaucoup.
Que tu parles des Ali, des Foreman, des Tyson, tous ces mecs là.
Et Fury est de cette trempe là.
Et Fury aussi.
Ricain est anglais beaucoup.
Ouais, là Usyk, il est ukrainien, c'est pas une grande gueule, c'est un mec qui fait pas de bruit mais qui est un formidable boxeur. D'ailleurs, aujourd'hui la catégorie des poids lourds souffre de ne plus avoir de boxeurs américains du plus haut niveau.
Et il voudrait bien se débarrasser d'Usyk mais ils y arrivent pas.
Ah ben non, et puis il est passé des lourds légers, il est allé taper tous les meilleurs poids lourds. Donc qu'est-ce que tu veux faire maintenant?
Allez, on avance un peu. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la mise au point d'Antoine Griezmann hier. On s'en fout, on s'en fout pas. Jérôme Pinault.
Non, on s'en fout pas.
Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Ok, Marc Madio, on s'en fout pas. Christophe Cessieux ?
Non, je m'en fous pas.
Ok, hier à quelques heures du choc de Liga entre le Barça et l'Atlético de Madrid, d'ailleurs remporté sur le buzzer par les Madrilènes, Antoine Griezmann a tenu à démentir une information, écoutez bien ça, du journal L'Équipe, selon laquelle le coup de gueule de Mike Maignan contre les Starlets après la défaite contre l'Italie lors du rassemblement de septembre aurait eu un impact considérable sur sa décision d'arrêter les Bleus. Donc Mike Maignan, mais ça on en avait déjà parlé, pousse un coup de gueule dans le vestiaire. Selon le journal L'Équipe, Antoine Griezmann le prend pour lui et donc il décide de prendre sa retraite. Le journal L'Équipe va même plus loin en rapportant les propos d'un membre du staff des Bleus à Mike Maignan. Deux points, ouvrez les guillemets, tu lui as mis une balle dans la tête. Faux, a répondu Antoine Griezmann sur X. Et quelques minutes plus tard, Mike Maignan a ironisé sur cette histoire en disant « Visiblement, j'ai le dos large, c'est qui le prochain ?»
Point d'interrogation. Vous en pensez quoi de cette histoire, Marion Bartoli?
Non, mais c'est, enfin, je pense qu'Antoine Griezmann a raison, effectivement, de donner sa version des faits, parce qu'avec...
Il la donne pas vraiment, hein, pardon. On ne sait pas en fait pourquoi il a arrêté, véritablement. Non, mais
le problème, c'est qu'avec les journaux, les journalistes qui veulent colporter certains faits, lancer des rumeurs, lancer des fake news, etc. Bon, au bout d'un moment, il vaut mieux quand même que ce soit les acteurs qui sont concernés, qui donnent leur version des faits.
Ah, ça, je suis d'accord, mais il faut qu'il la donne.
Jusqu'à quel point il a envie de la donner? Bon, ça reste son libre choix, son libre arbitre. Mais je pense qu'il a raison s'il estime qu'effectivement, là, ils vont trop loin et que c'est accusé un partenaire de l'équipe de France d'avoir fait quelque chose qui n'est pas le cas. Je pense qu'il doit effectivement le préciser. Mais jusqu'à quel point il a envie de donner sa version complète des faits, bon, ça, écoute, c'est son libre arbitre.
Ça, tu as raison.
Je pense que au moins de rétablir une certaine vérité, il a raison aussi de le faire.
Ça, tu as raison, c'est sa liberté. Mais le problème dans cette histoire, c'est un petit peu comme Didier Deschamps avec Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux pas te livrer, tu veux pas donner un semblant de version, et ben toutes les théories sont possibles. Et je dis pas que celle de l'équipe est fausse, pour le coup, elle est peut-être vraie. Lui dit que non, mais on a envie de l'entendre, Antoine Griezmann. Marc Madio.
Moi, je pars d'un principe que ce qui appartient au vestiaire doit rester au vestiaire.
Mais Marc, on lui demande pas de nous dire ce qu'a dit Mike Maignan. On lui demande de nous expliquer là, pourquoi il arrête sa carrière aussi brutalement.
Là,
c'est différent.
On est en train de tirer une ficelle, petit à petit, gentiment.
Je sens que tu vas t'énerver, ça me plaît, vas-y.
Qui va nous conduire à un énième débat.
Ah non, on a besoin de débat, tu sais, pour les
médias. Vas-y, c'est quoi le débat?
L'énième débat, ce sera faut-il laisser en place Deschamps?
Ouais. Ah, mais même pas, pourquoi?
Mais non,
c'est pas ça le débat, là.
Mais si.
C'est dans la gestion. Moi, je suis d'accord avec Marc, c'est dans la gestion de ce truc-là, depuis le départ et l'annonce de retraite d'Antoine Griezmann, il se passe quelque chose, forcément, qu'on essaye de maîtriser plus ou moins du côté de Deschamps, de la Fédé et de son staff. C'est obligé. Un mec comme Griezmann, il parle. Il fait de la com, bonne ou mauvaise, orchestrée par sa frangine, mais il en fait. Là, il n'a rien dit. C'est-à-dire qu'on ne le laisse pas dire ce qu'il devrait dire. Moi, j'ai un...
Ou voudrait
dire. Moi, ça me rappelle étrangement, c'était une autre époque, c'était d'un autre rang, mais j'ai un pote qui s'appelle Jérémy Toulalan, qui, quand il a été mis de côté par la 3F, après les histoires de Naïsna, on lui a bien demandé de ne pas tout raconter. Et il n'a jamais rien raconté. Aujourd'hui, il est chez moi à Nantes, il n'y a plus personne qui prend des nouvelles. Hein. Parce qu'il y a des cas comme ça, on fait en sorte.
Ça paraît moins touchy, Antoine Griezmann, avec Naïsna pas... et tout l'allant, la lettre de
l'avocat. C'est quand même un joueur actuel qui fait partie d'une organisation qui était très proche de Deschamps, qui a encore largement le niveau pour venir jouer en équipe de France, mais qui semble-t-il n'aurait pas les accointances possibles pour jouer avec certaines grandes stars du football français. Ça pose un problème quand même en fédération.
Oui, Marion.
Moi, je pense que, en fait, le problème de fond, c'est qu'au départ, Antoine annonce sa retraite des Bleus avec un post sur les réseaux sociaux. Bon, et je pense que, franchement, au vu de son statut, de tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, de l'amour qu'avaient les Français pour Antoine Griezmann en équipe de France, ça mérite plus que ça. Alors, après, la manière dont il doit le faire pour donner sa vérité, un interview avec quel média, comment ils veulent faire, sur ses réseaux à lui seulement, je sais pas comment, mais je pense qu'il doit plus s'exprimer que ce qu'il a fait, parce que là, en fait, on reste dans un tel flou et un tel doute que toutes les hypothèses sont possibles parce qu'on ne sait pas. Et je pense qu'effectivement, quand tu prends une décision aussi importante que de dire qu'à un moment donné, tu arrêtes ta carrière internationale, tu ne porteras plus le maillot de l'équipe de France, je pense qu'effectivement, ça mérite plus qu'un poste sur les réseaux et sa voix dessus.
Et Marion, il ne fait pas ça pour les journalistes, il fait ça pour les supporters frustré. Et pour le public de l'équipe de France qui adore ce maillot, qui a soutenu ce joueur pendant des années. On a envie de savoir à un moment donné pourquoi il se retire, mais c'est pas ni de la malveillance, ni on veut pas savoir les histoires de vestiaire. On veut juste savoir pourquoi une des plus grandes stars de ce jeu, de l'histoire des Bleus, arrête. Voilà, c'est tout simple.
Et ça, en réagissant comme ils le font là sur X, ça apporte rien de très positif à tout ça.
Ah bah toi aussi, ta voix est en train de te lâcher. Sachez que le journal L'Équipe nous apprend également que la fédération prépare un hommage à Olivier Giroud et Antoine Griezmann au Stade de France le 23 mars prochain pour les quarts de finale de la Ligue des Nations face à la Croatie. On a envie de dire, attendez peut-être avant de lui rendre un hommage, des fois qu'il change d'avis et qu'il revienne avec l'équipe de France. Mais ça, ce sera l'objet là d'un débat, tu as raison, Marc Madio, dans cette émission. Allez, troisième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est Antoine Camboire, notre ami Antoine, qui a finalement tellement la confiance de ses dirigeants. Ça y est, il a la confiance. On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
On s'en fout pas.
Marc Madiot.
Surtout pas,
Mario Bartoli.
Non, je m'en fous pas.
Ok, Jérôme Pinault.
Bah, évidemment.
Je savais que ça allait vous intéresser. Situation assez improbable à Nantes, quand même, hein, où le sort d'Antoine Camboiré était scellé cette semaine. Voilà, c'était scellé. Ils ont étudié les pistes Sergio Conceição. C'était le plan A. Le plan A qui a dit non. Alors, on a été sur le plan B. Habib Bey, finalement, il y a eu des petits soucis avec le staff. Des gros soucis, bah tu vas nous dire tout ça dans quelques instants, avec la composition du staff d'Habib Bey. Donc, le FC Nantes a décidé hier de conforter son entraîneur au-delà du 32e de finale de la Coupe de France contre Drancy, remporté d'ailleurs hier par les Canaries. Alors, on a posé la question hier à Antoine Camboiré en conférence de presse, mais comment fait-il pour travailler dans ces circonstances ? Réponse.
Je sais que quand on n'a pas des bons résultats, ben moi je suis le premier... la concernée, je suis le responsable, et là j'assume les résultats qu'on a aujourd'hui. Et puis après, je bosse, moi je suis pas là pour dire je suis content parce que aujourd'hui je suis en place, je suis confirmé, je travaille. Je me viens tous les jours avec l'idée donc, de comment améliorer mon travail, comment faire progresser mes joueurs, comment faire que mon équipe elle, renoue avec la victoire, qu'on gagne des matchs, qu'on gagne des places au classement. Il n'y a que ça qui me préoccupe. Tant qu'on ne me dit rien, ben, je bosse. Je suis professionnel.
Très classe, hein, Antoine Camboiré, dans cette histoire, parce qu'il sait que...
Il est depuis le début.
Le staff, enfin en tout cas, le club veut chercher un autre entraîneur, et il n'y a pas, donc on le garde.
Ça doit être quand même compliqué dans sa tête, quoi. Tu sais que t'as une balle au bout du fusil, que t'es tenu en joue par tes présidents. S'il y en a un qui dit oui, bah, tu dégages, et puis finalement les deux disent non, et bah, tu restes. Jusqu'à quand ? Jusqu'à la prochaine ? Jusqu'à ce qu'il trouve un autre nom à sortir du chapeau ? Il sera là. Franchement, la considération humaine dans les clubs de foot, elle est vraiment au plus bas. C'est pas le fait de Monsieur Kitar, hein, c'est un peu partout pareil. Il y a l'entraîneur de Tottenham qui est un Grec qui s'appelle Postecoglou qui disait cette semaine: nous sommes si prompts à jeter les gens à la poubelle, à passer rapidement à autre chose, sans réfléchir ni se préoccuper de quoi que ce soit. Des gens me disent que les managers ont toujours été licenciés. Je pense simplement qu'aujourd'hui cela va plus loin et que nous oublions qu'il s'agit d'un être humain. Il y a plus de sentiment d'humanité dans le monde du football.
Tu sais ce qu'on te répondra dans ces cas-là ? On te répondra vu comment ils sont payés et le chèque qu'ils touchent à leur départ. Mais non, mais c'est ce qu'on te répond. Je te dis pas que c'est ce qu'il faut répondre. Mais c'est vrai que malheureusement, la considération parfois des entraîneurs est assez incroyable, Marc.
Moi, je crois qu'il va y trouver une force à la situation qui est devant lui. En fait, il sait que ça peut arriver à tout moment. Mais il a une telle expérience, un tel vécu d'entraîneur, il est déjà passé et repassé par Nantes, que moi je me dis que ce qui se passe en ce moment, c'est presque du pain béni pour lui pour la suite avec son équipe.
Ok, pour faire corps autour de son équipe en disant les joueurs, peut-être que les joueurs vont se réveiller en disant on veut pas le lâcher quoi.
Voilà.
C'est ça que tu veux nous dire.
Ouais,
parfois
non,
c'est l'effet inverse, hein. Parfois les joueurs te lâchent. Hein.
Je sais pas. La situation est tellement particulière que ça peut devenir un avantage pour Camboiré.
Ok, un avantage.
Il y en a qu'un qui est dans sa situation ne se fera jamais virer, c'est Guardiola. Lui, par contre, il a un totem d'immunité absolu.
Ouais, c'est une autre dimension.
Ah oui, c'est sûr.
Toi, le Nantais, là, ton regard sur la situation.
Bah, ça me fait mal et rire parce que c'est encore une fois une situation qui est comico-tragique parce que ces gens-là ont sondé tous les entraîneurs de la planète France, en tout cas, pour essayer de trouver quelqu'un. Au final, ils confortent. Non, ils confortent pas. Ils ont pas trouvé. Mieux, donc on te garde. Moi, je trouve qu'Antoine Camboiré est quelqu'un de formidable. Il habite à côté de Nantes. C'est le bon dépanneur, comme il dirait au Canada. Il est là. Il fait du bon boulot malgré tout. Il fait avec l'effectif qu'il a. C'est pas toujours très joli à voir, mais ça peut être efficace et ça reste suffisant quand on est Nantes actuellement à la place du championnat. Et derrière, comment peut-on allons sonder ? Moi, j'ai de l'admiration pour Habib Bey dans son projet, mais c'est un homme de projet qui va partir de zéro, qui va construire. La preuve, il a été sondé. Son staff est incomplet. Comment peut-on faire appel à un jeune entraîneur qui est basé sur un projet de construction pour relancer une dynamique de club, donc on prend la base. Comment peut-on le prendre pour un pompier en plein milieu de saison ? Moi, je
c'était pas le bon profil.
Mais non, je ne comprendrai jamais comment on peut à en arriver là quand on est deux présidents, pas un, on en a deux, nous. Hein.
Rapidement, deux présidents, c'était qui le bon profil ?
Pascal Duprat.
Parce que... on l'adore Pascal Duprat, mais on adore aussi Antoine. Donc on veut...
Non, on aime bien les deux, mais...
On veut du bien aux deux, mais en tout cas...
Oui,
voilà,
mais voilà, ce genre d'entraîneur, oui, mais pas non, un jeune entraîneur.
On veut bien prêter Pascal aux Canaries et que les Canaries nous prêtent Antoine. Et puis, on fait vice-versa. Quand voilà. Pascal se fait
bien dans 3 mois,
on réechange.
Voilà, exactement. Voilà, on fait une garde alternée.
Et s'il y a un problème de logement, un problème de logement dans la région pour Pascal, j'ai une maison à louer, il n'y a pas de problème.
Ok, très bien. En plus, il fait son business dans cette émission. Bravo. 9h58, on se retrouve dans quelques instants. Le Stade Toulousain dérange-t-il ? Ce sera notre question. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.